Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Les attentats commis dans le monde par de jeunes djihadistes posent la question de savoir comment des jeunes ont pu en arriver à de tels extrêmes. Pourquoi des jeunes Européens partent-ils faire le djihad en Syrie, en Irak, au Yémen? Les islamistes radicaux utilisent-ils les mêmes techniques que les sectes pour endoctriner les jeunes? Un endoctrinement qui se fait majoritairement par Internet et les réseaux sociaux. D'ailleurs, peut-on parler réellement d'endoctrinement? Quel peut être le rôle des psychiatres et des psychologues pour sortir de cette radicalité, de cette emprise? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Souleymane Valzane, qui est chargé de mission radicalité au centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Malika Mansouri, psychologue en pédopsychiatrie à Saint-Denis et chercheur à l'INSERM. Et Serge Blisco, président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Si vous avez envie de participer, d'apporter un témoignage ou de poser des questions, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, nous entendrons également le témoignage de Mourad Benchelali, qui est un ancien détenu français du camp de Guantanamo. On aura également au téléphone Anna Erel, journaliste qui vient de publier « Dans la peau d'une djihadiste, enquête au cœur des filières de recrutement de l'État islamique » aux éditions Robert Laffont. Serge Blisco et Malika Mansouri, bonjour.
Bonjour.
Souleymane Valzane, bonjour. Vous êtes au téléphone avec nous. Ma première question ira vers vous et je ferai réagir mes autres invités après. Souleymane Valzane, l'endoctrinement, on le sait, se fait vraiment majoritairement par Internet. Les islamistes radicaux utilisent-ils les mêmes techniques que les sectes pour endoctriner les jeunes?
Alors, bonjour à tous. La première information, c'est que je ne parlerai pas d'islamistes. En parlant des radicaux, je parlerai de terroristes. Parce que si on considère que le terme islamiste est validé, on laisse rentrer dans l'islam ce genre de représentation. Et le but, c'est effectivement de bien parler de sectes et du coup de les sortir de l'islam orthodoxe. Parce que c'est toute une volonté chez eux de pouvoir se faire passer pour des orthodoxes.
Oui, c'est bien de dire que ça n'a finalement rien à voir avec la religion.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une déviation, il y a un vernis islamique qui est posé dessus, mais on ne considère en rien que ça représente l'islam en France aujourd'hui. Et tout ce discours, on le considère comme terroriste. Par ailleurs, sur la question de savoir si on a affaire à des sectes, nous, au niveau du CPDSI, la question, c'était de savoir s'il y avait une véritable emprise mentale. Et on s'est aperçu que, à travers les vidéos, le jeune était amené à faire des choses par répétition et par mimétisme, et qui allait entraîner chez lui une impossibilité de penser par lui-même, et le groupe prenait place en lui pour penser à sa place. Donc c'est dans ce cadre-là que nous, on parle d'emprise mentale, et du coup de mouvement sectaire.
Serge Blisco, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires?
Oui, vous l'avez dit, donc la tête de cette mission, c'est beaucoup... poser la question depuis que des signalements sont arrivés il y a 2 ans. Et je suis d'accord avec l'analyse qu'a fait notre intervenant au téléphone. Je ne suis pas sûr que ça soit une secte comme une autre, une dérive sectaire comme une autre, mais ce dont nous sommes absolument certains, c'est qu'il y a une forme extrêmement élaborée d'emprise mentale sur ces jeunes. Je rappelle que on trouve des jeunes de 13-14 ans, dès 13-14 ans, qui sont dans ce phénomène d'emprise mentale et donc avec une certaine fragilité commune à cet âge-là, qui les rend beaucoup plus accessibles à cette emprise et à cet endoctrinement.
C'est ça, une forme de dépersonnalisation et un côté où on suit...
Et on reconstruit une autre personnalité, c'est-à-dire qu'on leur fait, on fait lentement, enfin plutôt rapidement, très rapidement, disparaître finalement la petite fille, le petit garçon, le jeune, qui est au lycée, qui est en formation, qui se trouve bien au milieu de ses frères et sœurs, de sa famille, pour en faire quelqu'un. Et j'allais dire quelque chose d'autre, parce qu'il y a aussi une dépersonnalisation, comme vous l'avez dit.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Malika Mansouri, vous qui êtes psychologue, psychanalyste?
Oui, moi je ne saurais pas dire en fait si ces gens qui embrigaderaient, pratiquent selon les mêmes mécanismes que les autres sectes. Je me dis qu'il faudrait peut-être, pour bouger au niveau de nos représentations, peut-être se poser les questions à l'envers, à savoir qui sont les jeunes Français, les enfants de la République, susceptibles de se laisser finalement attraper par ces organisations. Qui sont-ils? Voilà, c'est ça la question que je me pose.
On va y revenir justement. Oui. Est-ce qu'il y a un profil commun entre ces jeunes? On a au téléphone Anna Herel, qui est journaliste, qui vient de publier « Dans la peau d'une djihadiste, enquête au cœur des filières de recrutement de l'État islamique ». C'est un livre qui paraît aux éditions Robert Laffont. Anna Herel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Certains, vous dites dans votre livre que certains parents de djihadistes comparent l'embrigadement de leur enfant aux méthodes en vogue dans les sectes. Est-ce que vous êtes vous aussi d'accord avec cela?
Oui, moi je suis assez d'accord et pour revenir deux secondes sur ce qui vient d'être dit, je pense pas qu'il y a quand on parlait d'enfants de la République, il y a pas un type de djihadiste, malheureusement. C'est ça le danger. Donc au début, s'il y avait des méthodes peut-être qui étaient comparables à celles des sectes et qui tapaient dans certains milieux, qui étaient peut-être des milieux défavorisés, aujourd'hui malheureusement ça s'étend énormément. Parce qu'ils leur, enfin voilà, ils cherchent des gens qui ont des profils, soit l'ultra sensible, soit le revanchard. Soit la personne qui déteste son pays ou qui est simplement complètement perdue.
Et puis, les idéalistes aussi, les idéalistes qui ont envie de sauver le monde.
Ouais, alors il y a les idéalistes, alors eux c'est sûrement les plus honnêtes je pense, avec les ultra-sensibles dans l'eau, c'est ceux qui partent en pensant vraiment qu'ils partent sur des bases religieuses et qui sont appelés par la religion. Et alors que les autres, en fait, connaissent pas du tout la religion, c'est bien tout le problème. L'État islamique a rien à voir non seulement avec l'islam, mais avec la religion tout court.
Anna Herel, j'aimerais bien que vous nous racontiez votre enquête. Hein. Sur Facebook, en fait, vous entrez en contact avec un certain Bilal. D'ailleurs, on devrait plutôt dire qu'il entre en contact avec vous, ouais. Car vous avez tout simplement partagé une de ses vidéos.
Oui, exactement. Bilal, lui, c'est un djihadiste d'une près d'une quarantaine d'années. Donc il est d'une autre génération que tous ces jeunes dont on parle. Et il a fait ses galons depuis longtemps, notamment en Afghanistan, au Pakistan et en Irak. Et il fait une vidéo que je trouve personnellement ridicule, où il essaie d'attirer ces jeunes en leur montrant sa voiture, en disant que c'est génial la Syrie, qu'ils ont énormément de pouvoir sur place, qu'ils seront quelqu'un, que lui est devenu quelqu'un comme ça. Il montre une armada d'armes à l'arrière de sa voiture qui est assez impressionnante. Et je partage cette vidéo et il rentre simplement en contact avec moi en me demandant les deux seules questions qui l'intéressent finalement. Est-ce que je suis musulmane et est-ce que je compte venir faire mon djihad en Syrie?
C'est ça qui est totalement impressionnant, c'est que dès le premier échange, il vous dit « Penses-tu venir en Syrie ?» Il va droit au but dès le début.
Il va droit au but et surtout qu'il ne sait pas qu'il a en face de lui. C'est-à-dire qu'il pense piéger quelqu'un, mais en fait, il sait pas, il a jamais vu ma photo, enfin, ou la photo de mon personnage. Il ne sait pas à qui il parle. Ça se trouve, ça pourrait être un homme qui s'est passé pour une fille. Enfin, il ne sait pas. Et ça l'empêche pas d'attaquer tout de suite dans ses méthodes, ouais, du prosélytisme, et même de me demander en mariage en deux jours, alors qu'il connaît toujours pas mon visage.
C'est ça. Mais très vite, il vous demande d'ailleurs de dialoguer avec vous par Skype, ce que vous faites.
Mm-hmm. Ouais.
Et là, vous essayez quoi? Quel était le but de votre enquête? D'essayer de comprendre, justement, comment ils endoctrinent des jeunes? Et particulièrement des jeunes femmes, des jeunes filles?
Alors, oui, il y avait deux buts. Le premier, c'est que ça faisait un moment que je travaillais là-dessus et que je comprenais très bien la propagande qui s'effectue sur le net et le fait qu'aujourd'hui, à 13, 14, 15 ans, on peut dire n'importe quoi derrière un ordinateur sans avoir vocation à s'en en Syrie. Mais je ne comprenais pas le passage à l'acte. Dans le cas de certaines personnes de famille, en fait, au début, il y avait énormément de cas de gens comme par exemple Mohamed Merah, qui était des gens très plutôt isolés. Je parle d'isolés au niveau cellule familiale peut-être, mais de plus en plus, là, on voit des cas de familles qui s'aiment énormément, dont les enfants ont manqué de rien. Donc c'était très bizarre pour moi. Je voulais comprendre comment on passait à l'acte, et donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que déjà d'une part, ils lâchent pas leur proie. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a quand même quelque chose de comparable avec les méthodes sectaires. Une fois qu'ils vous ont ferré, ils ne vous lâchent plus.
Ah non, mais c'est impressionnant, la quantité de messages qu'ils vous mettent sur Facebook, par texto, par Skype, c'est absolument incroyable.
Oui, non, vraiment. Par jour, parfois, je suis à une cinquantaine de messages par jour, alors que je l'ai eu au téléphone déjà trois ou quatre fois. Et sans oublier que l'individu à qui je parle est quand même en Syrie, en train de me raconter qu'il mène des combats sanglants et il a le temps de minauder par téléphone toute la journée. Et encore une fois, il a cerné le personnage. Le mien était plutôt ultra sensible, donc il a essayé de lui parler au début des armes, de l'attrait de la guerre, etc. C'était pas quelque chose qui l'intéressait. Donc il a misé sur autre chose, à savoir le fait que c'était quelqu'un qui n'avait pas de père, qui manquait énormément de repères, qui peut-être se cherchait inconsciemment qui pensait chercher un petit ami, mais qui inconsciemment cherchait plus un père. Bilal a quand même le double de son âge, donc ça aide. Et il a énormément, euh, il il a énormément convaincu de venir par ce biais-là, en fait. Mais il aurait eu quelqu'un en face de lui qui lui disait « je suis dégoûté par la France, mon pays d'Europe ».
Il aurait changé de discours, il n'aurait pas pris le même.
Exactement.
Vous notez, vous, tout de suite, parce que vous avez évidemment de la bouteille, vous avez pas. Vous dites que vous avez 18 ans, hein, quand vous rentrez en contact avec lui, vous avez quand même quelques années de plus, voilà. Vous notez tout de suite quand même qu'il y a beaucoup de contradictions, hein. Il critique la société de consommation, mais il a des Ray-Ban et des Nike. Vous voyez bien tout ce qui cloche, mais vous comprenez aussi très bien qu'une jeune de 18 ans ne voit pas ça de façon évidente. Et entre autres, vous lui posez par exemple pas mal de questions sur les enfants, les atrocités faites aux enfants. Et là, il sait très bien détourner les choses.
Très bien, exactement. Il met, dans mon cas, mais dans le cas d'autres recruteurs, ils vous mettent sur le chemin qu'ils veulent. Et sans que vous en rendiez compte, vous posez plein de questions, un extrême de questions, mais ils vous en font vous en poser d'autres. Et en fait, ils vous font poser les questions où ils ont les réponses. Donc du coup, forcément, quand il me parlait d'être mère de substitution, je disais, mais l'État islamique aussi peut-être tue des enfants. Il me disait, mais non, au contraire, on les sauve, on les met dans des orphelinats, et si toi qui es musulmane dans ton pays d'Occident, tu ne viens pas, et que tu es une mauvaise musulmane, tu brûleras en enfer, tu ne viens pas aider tes frères et tes sœurs ici. Et donc, ils exercent énormément aussi un sentiment de culpabilité. Dans mon cas à moi, la personne qui veut prendre les armes, je pense qu'elle n'a pas besoin de ce sentiment-là. Mais le cas de Mélanie, mon personnage, qui hésitait à y aller pour des raisons évidentes, et finalement, il l'a eu à l'usure avec la culpabilité.
Oui, c'est ça. Le but, hein, c'est vraiment que vous partiez en Syrie. Vous mariez, enfin, en gros, il vous marie par Skype. On va revenir, hein, je vais vous redonner la parole tout à l'heure à Naïrel, puis vous nous raconterez un peu le dénouement de cette histoire. J'aimerais bien faire réagir mes invités autour de cette table. D'abord, Souleymane Valzan, j'imagine que pour vous, cette enquête est quand même très intéressante pour comprendre comment des jeunes filles se font, entre guillemets, avoir.
Tout à fait. C'est intéressant de réactualiser parce que nous, effectivement, on a les témoignages des familles sur les premières situations qui ont été connues. On réactualise chaque jour et donc c'est toujours intéressant d'avoir effectivement le témoignage de la journaliste, pardon, j'ai oublié son nom.
Anna Erel.
C'est vrai que ça nous permet de voir comment ils adaptent leur discours, comment ce discours il est polymorphe suivant le profil qu'ils ont l'impression d'avoir en face. Et du coup, le discours va toujours être, dans un premier temps, de valoriser la personne pour ensuite la ramener à eux. Et c'est toujours dans ce mécanisme-là que ça fonctionne, que ce soit un jeune qui soit passionné d'armes, on va aller sur ce terrain-là. Quand on voit que c'est quelqu'un qui a un profil hypersensible et une véritable conscience humanitaire de vouloir contribuer à améliorer le monde, qui n'est pas toujours dans un état fantastique, eh ben on va la valoriser et ensuite on va l'attirer à nous en disant si tu es sensible à ça, il faut absolument que tu participes au combat en Syrie parce qu'il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui perdent leurs parents et toi tu as tout ton rôle à jouer là-dedans. Voilà. Sans expliquer bien entendu qu'ils font exactement la même chose que les troupes de Bachar al-Assad. Hein,
absolument. Serge Blisco.
Oui, je retrouve dans le témoignage d'Anna Erel un certain nombre d'éléments que nous avions déjà. Alors je crois qu'il faut d'abord dire qu'il y a plusieurs populations. Nous, on prend le terme de djihadiste parce que c'est celui qui était employé. Ceux qui partent, ceux qui sont sur le terrain des opérations, sont souvent un peu plus âgés quand même que ces plus jeunes qui sont, eux, en un sens de départ ou qui sont des jeunes filles. Et il faut dire, mais on y reviendra, qu'il y a une majorité de jeunes filles qui sont quand même captées dans ces réseaux. Alors ceux qui partent, alors là il y a des jeunes avec des profils très différents, soit déjà des gens qui ont un parcours judiciaire et qui effectivement trouvent peut-être là l'occasion de rebondir à leurs yeux. Mais la majorité des cas que nous avons, nous, et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines qui se sont signalés au fameux numéro vert.
Un numéro vert installé par le gouvernement français.
Installé par le gouvernement depuis le mois d'avril dernier, donc en 8 mois. Ce sont des jeunes très jeunes d'abord, une majorité de jeunes filles. Et puis ce qui nous frappe, ce sont des jeunes de tous les milieux, de toutes les cultures, de toutes les origines religieuses. Et même une bonne partie n'ont aucune origine religieuse, etc.
Et contrairement à ce qu'on pense, pas du tout tous issus de l'immigration.
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. Plus de 50% sont des... Il y a des jeunes filles tout à fait étonnantes, filles de deux parents enseignants très laïcs en Normandie. Donc on n'imagine pas ce type de parcours. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a effectivement une emprise mentale, puisque vous avez commencé à poser cette question. Emprise mentale qui se fait très vite par les réseaux sociaux, qui se fait très vite par Internet, qui se fait très vite par aussi, je dirais, une capacité de ceux qui lancent ça et de celui ou celle qui lance ça, de capter, ces, j'allais dire, cette culture jeune. Hein, cette culture jeune. Et puis, il y a, on le dit, le fait que les parents se rendent pas compte au début. Mais, par exemple, je pensais à une mère de famille qu'on connaît bien, qui avait confisqué, comme on dit, le téléphone portable de sa fille, qui, brillante élève, qui avait totalement dérivé, qui avait arrêté le lycée, etc. Et qui s'était totalement cantonnée dans ce rôle, avec un totalement voilé, etc. Et on lui avait redonné un portable, elle avait trouvé 50 SMS de directives par jour. Et par nuit, d'ailleurs, puisque ça, c'est le jour, c'est la nuit, donc en plus il y a une espèce d'épuisement psychologique qu'on retrouve,
des messages absolument en permanence,
des méthodes qui sont celles que connaissent bien les groupes sectaires.
Souleymane Valzan, est-ce qu'il y a un point commun entre ces jeunes? On dit bien qu'ils sont d'origines diverses, mais est-ce qu'il y a quand même pas des points communs?
Alors, les points communs qu'on a réussi à trouver, il y en a pas forcément beaucoup, et c'est pour ça que le discours est toujours individualisé auprès du jeune. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, ce sont toujours des jeunes qui sont hypersensibles, en quête de repères. Alors, en quête de repères, j'irais dans le sens de qu'est-ce que je peux apporter à la société pour l'améliorer, parce que j'ai une envie de contribuer à son amélioration. Ça va être, j'ai besoin effectivement de quelqu'un de charismatique qui m'accompagne. Et je vais le trouver à travers les sortes de gourous qu'on a sur Internet et qui effectivement ont une emprise sur eux, et on a vraiment le parcours du un peu ce qu'on appelle nous le porteur d'eau, c'est-à-dire celui qui veut en faire partie mais qui n'a pas vocation à diriger un groupe. Et puis on a des jeunes qui sont dans la toute puissance et qui se disent tant qu'il m'arrive rien, je suis Dieu et j'ai la possibilité de me régénérer et de conduire des gens. Parce que je suis dans un profil où ça passe ou ça casse, et tant que ça passe, ça veut dire que je suis élu par Dieu. Voilà un petit peu les types de profils qu'on a, mais ce qu'on remarque à chaque fois, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de trouver des repères et une hypersensibilité chez les jeunes.
Malika Mansouri, justement, vous, en tant que psy, qu'est-ce que vous voyez comme point commun dans ces jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas un léger état dépressif? On est bien d'accord qu'on ne parle pas de maladie mentale grave, mais juste une sorte de malaise où un psy aurait peut-être un rôle à jouer?
Oui, les psys ont des rôles à jouer, nombreux rôles à jouer. En l'occurrence, ce serait bien qu'on les invite davantage sur les plateaux de télé. Ça, j'avais envie de le dire. Un certain nombre de travail à réfléchir sur ces questions-là. Je ne sais pas si on peut parler d'état dépressif. Je crois que les choses sont très très complexes et qu'elles cumulent différents niveaux de compréhension. Il n'y a pas un point commun entre tous, bien évidemment. Chacun est singulier. Mais il y a quand même quelque chose de spécifique et qu'il faut peut-être envisager. C'est que, par exemple, ces dernières affaires auxquelles nous avons eu à partager émotionnellement tout ça, concernent plus particulièrement des enfants qui sont néanmoins originaires des anciennes colonies françaises. Ça, vous savez que c'est ce sur quoi je travaille. Et on peut...
On vous avait reçu dans Priorité Santé quand vous aviez sorti un ouvrage là-dessus. Sur cette réflexion, voilà. Sur les révoltes post-coloniales.
Les frères Kouachi, par exemple, ou alors Koulibaly, ou l'épouse de Koulibaly, quelles sont leurs origines, la filiation historique. Donc moi, j'avais envie, quand même, non pas de dire que cela était majoritaire et qu'il fallait les montrer du doigt, certainement pas, parce qu'il y a beaucoup de convertis qui se radicalisent encore davantage, mais... Néanmoins, il y a quelque chose là qui devrait venir questionner aussi ce qui se fabrique avant la rencontre avec ces recruteurs, on va dire, sur le web ou ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour que certains enfants se laissent happer de cette manière, au risque, en acceptant des mains, entre guillemets, tendues, doivent se saisir en parallèle de
Kalashnikov. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de savoir comment désendoctriner les candidats au djihad.
7 milliards de voisins. Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir comment aider les jeunes endoctrinés qui sont partis faire le djihad. Avec Souleymane Valsane, qui est chargé de mission radicalité au Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Serge Blisco, qui est président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Malika Mansouri, psychologue en pédopsychiatrie à Saint-Denis et chercheur à l'INSERM. Anna Erel, qui est journaliste et qui vient de publier Dans la peau d'une djihadiste, enquête au cœur des filières de recrutement de l'État islamique. Et si vous avez envie de participer, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Serge Blisco, vous aviez envie de réagir à ce que nous disait Malika Mansouri juste avant les informations, où elle s'intéressait, je dirais plus particulièrement, mais de fait par votre métier, hein, Malika, le fait d'être à Saint-Denis, de jeunes issus de l'immigration. On ne devrait d'ailleurs pas utiliser forcément ce terme, parce que c'est de la deuxième, troisième génération de Français, mais dont les parents ont une histoire avec des pays colonisés par la France. Serge Blisco, vous vouliez réagir.
Oui, je trouve que c'est une explication qui peut être valable pour un certain nombre d'individus, mais qui s'avère peu opérante puisque la grande masse est justement pas issue de ces milieux. Puis, deuxièmement, heureusement d'ailleurs, parmi les jeunes issus de l'immigration et qui sont aujourd'hui très nombreux, sont ceux qui s'en sortent par le scolaire, avec parfois des difficultés importantes, mais quel que soit leur quartier de naissance, les villes difficiles ou les zones d'éducation difficiles où ils sont, il y a vraiment beaucoup d'exemples de réussite et d'intégration parfaite. Donc, il y a quand même, je crois, au-delà des explications, j'allais dire, sociologiques, logique ou politique, des questions qui sont des questions individuelles. Il y a quand même des jeunes, en particulier des jeunes garçons, qu'on retrouve d'ailleurs indépendamment de tous les milieux d'origine, ce goût des conduites à risque. Alors eux, ils sont orientés là-dessus par un certain nombre d'embrigadeurs, si j'ose dire. Et puis, évidemment, beaucoup de jeunes sont aujourd'hui en quête de repères. Donc il y a effectivement un effort à faire, mais je crois que c'est un effort collectif qui touche tous les jeunes, pour leur montrer que la société n'est pas simplement cette société matérielle. Et je crois que tout à l'heure, au téléphone, on parlait beaucoup de cette insatisfaction qui amène un certain nombre de jeunes vers une volonté de faire de l'humanitaire, avec cette hypersensibilité qu'on retrouve beaucoup dans des familles qui apparemment n'ont pas de problème. Je dis apparemment parce que Madame Mansouri, qui est psychologue, le sait mieux que moi, même quand on n'a pas de problème.
Il y en a quand même, c'est ça.
Il y en a quand même, voilà.
Malika Mansouri, vous vouliez réagir?
Oui, mais je suis d'accord. Simplement, ce que je voulais dire, moi, c'est qu'avant cet embrigadement potentiel, avant ce temps T où il va y avoir quelqu'un qui va intervenir pour embrigader, on va dire ça, il y a quelque chose d'une responsabilité collective, ensemble, en France, à ce qui peut avoir généré un terreau chez cette jeunesse qui va se laisser attraper. Voilà, c'est ça que je veux dire.
On va essayer de réfléchir à cette question du qu'est-ce qu'on peut faire en préventif. Je crois que vous avez envie de réagir, Souleymane Valsane.
Bah, c'est-à-dire que je partage tout à fait l'analyse de Serge Blisco par rapport à la question. C'est effectivement, à un moment, quels sont les projets proposés par la société qui vont aller contrecarrer ce discours. Et aujourd'hui, si ce discours fonctionne, c'est que les autres ne fonctionnent pas en direction des jeunes. Et après, ça peu importe, je dirais, le milieu socio-culturel du jeune qui va être dans ce questionnement de qu'est-ce que je peux apporter à la société. Comment je peux m'impliquer, et finalement le discours terroriste, il m'apporte une réponse et la société ne m'en apporte peut-être plus actuellement par rapport à un discours que moi je pourrais entendre.
Je vous propose justement d'écouter le témoignage de Mourad Benchelali, qui est un ancien détenu français de Guantanamo. Alors, il se considère pas du tout comme ancien djihadiste, ni d'ailleurs comme endoctriné. Il a été joint au téléphone par Igor Strauss.
Je pars en Afghanistan en 2001 sous le conseil d'un proche. Il me dit que ça va être une bonne chose, qu'elle peut me faire du bien pour ma religion. On est dans un contexte qui est particulier, puisqu'on est avant le 11 septembre, il y a beaucoup de choses sur l'Afghanistan que je ne connais pas. Mais en tout cas, à aucun moment, ça a été dans l'idée d'aller combattre.
Ah, à aucun moment, vous n'êtes parti pour combattre?
Non, Al-Qaïda, Ben Laden, je ne connaissais pas. J'y vais parce que simple idée d'aller voir ce pays. Alors évidemment, ça a été une erreur de parcours, c'était une mauvaise idée. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. C'était naïf aussi de ma part de penser que je pouvais y aller comme ça sans que ça ait aucune incidence sur ma vie. Et je me suis retrouvé dans un engrenage qui m'a ramené dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, puis à Guantanamo, et ensuite dans les prisons françaises.
Alors justement, parlons de ce camp d'entraînement d'abord. Est-ce que vous considérez que vous avez été endoctriné à ce moment-là ou pas du tout?
Je dirais pas endoctriné, mais embrigadé. L'endoctrinement, on y est confronté parce qu'il y a des discours, etc. Mais moi, je comprends pas beaucoup l'arabe. Et puis, malgré tout, on n'est pas obligé d'adhérer. On peut écouter un discours. On peut, voilà, on n'est pas forcément toujours possibilité de garder une distance. L'islam radical, c'est pas une maladie contagieuse qu'on attrape à proximité d'une personne contaminée. C'est plus compliqué que cela. En revanche, on est embrigadé parce que on est dans ce camp d'entraînement. On vous apprend des choses et puis on espère faire de vous un éventuel combattant. Donc, on est un espèce embarqué dans une machine qui tente de faire de vous un combattant. On m'a pas mis non plus la Kalachnikov sur la tempe en me disant tu combats ou on te tue. Ça n'a pas été jusque-là, mais bon, c'est quand même assez difficile de pouvoir garder ses distances. Donc moi, je voulais repartir, m'ont expliqué que j'étais obligé de rester, donc je suis resté ces 60 jours, et dès que les 60 jours sont terminés, j'ai pu quitter le camp, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir rentrer chez moi. Puis il y a eu le 11 septembre, donc le piège s'est refermé.
C'est alors que commence le plus dur pour vous, la fuite vers le Pakistan notamment, et puis votre arrestation au Pakistan, et enfin votre transfert à Guantanamo.
Quand on est dans les mains des militaires américains, on est content, parce qu'on se dit c'est l'armée américaine, c'est une grande démocratie, donc le cauchemar se termine. Et puis au fait non, ça recommence les violences, ce qui va nous mener au camp de Guantanamo.
Vous êtes resté combien de temps à Guantanamo ?
2 ans et demi. Les Américains nous disent qu'on va y passer notre vie, on nous parle même de la chaise électrique. Donc psychologiquement c'est très difficile, on est coupé totalement du monde. Alors oui, il y a les mauvais traitements, ça c'est surtout l'interrogatoire. Et puis ce qui est psychologique, c'est tout le système de Guantanamo, la façon dont il est organisé. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans une cellule, on ne sort presque jamais. La seule pour seule lecture le Coran. Et puis il y a les gardiens qui nous mettent la pression, qui nous insultent. Les interrogateurs aussi qui nous menacent. On nous fait prendre des médicaments dont on ne connaît pas la provenance. On nous fait des injections. Donc c'est tout ça qui fait que c'est très difficile psychologiquement de faire face à cette pression.
Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ? Ça a été la fuite à travers les montagnes pour le Pakistan ou ce séjour à Guantanamo ?
Ça a été mon retour en France, le plus dur. Quand je suis arrivé en prison... J'ai vu que la majorité des membres de ma famille étaient en prison. J'étais dans la même prison que ma mère. Ça faisait 2 ans qu'elle était là. Il y avait mon père, il y avait mes 2 frères.
Mais qu'est-ce qu'on leur reprochait, concrètement ?
Ma mère, je ne sais pas, on a toujours vraiment compris. On disait d'elle que c'était un danger public, alors que non, c'était insensé pour nous. Donc j'ai dû vivre ça. C'était comme sortir d'un cauchemar pour entrer dans un autre, en fait.
Et au final, vous êtes resté combien de temps en prison, en France ?
Presque 2 ans. Et puis là, je suis livré totalement à moi-même à la sortie de prison.
À aucun moment, on vous a proposé justement un suivi psychologique ou une aide ?
C'est ce qui m'étonne. Parce qu'aujourd'hui, on dit, mais que faut-il faire ? De jeunes qui se sont radicalisés, de jeunes qui ont eu un parcours djihadiste, pourquoi est-ce qu'ils se radicalisent, etc. Mais moi, j'ai toujours constaté que rien n'avait été fait pour prévenir, d'une part, et pour guérir pour ceux qui étaient revenus. Moi, je prends souvent mon exemple pour expliquer ces carences. Pour dire que oui, il n'y a pas de suivi psychologique, oui, il n'y a pas d'aide à la réinsertion, oui, il n'y a pas de toutes ces choses qui manquent. Et je pense que c'est un problème, que c'est dommage. Alors il y a des associations humanitaires qui m'ont aidé, heureusement qu'ils étaient là d'ailleurs. J'ai un ami qui s'appelle le docteur Pierre Duterte, c'est un psychothérapeute, il est spécialisé dans les victimes de torture. Donc j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire d'une organisation humanitaire et il m'a pris en charge gratuitement. Alors il m'avait diagnostiqué à l'époque du syndrome de stress post-traumatique. Globalement, c'est des cauchemars, c'est des flashbacks, c'est des trous de mémoire, c'est une agressivité avec les gens. Il m'explique que c'est un mécanisme de défense, qu'on a tellement souffert que du coup on est agressif avec les autres. Mais maintenant, je peux dire que ça va mieux, je suis sorti de ça, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Et puis voilà, j'ai pu reconstruire ma vie, apprendre un métier, fonder une famille, donc maintenant ça va. J'essaie de dissuader des jeunes de faire les mêmes erreurs qu'ont pu être les miennes, et ça m'aide aussi à me reconstruire. Je me sens utile.
Mourad Benchelali a publié « Voyage vers l'enfer » aux éditions Robert Laffont. Il y a 3 points très importants qui me frappent, moi, dans ce témoignage. D'abord, la difficulté à reconnaître l'endoctrinement, dont je voudrais qu'on parle un peu plus longuement. La question du « je voulais partir » et puis la question du retour en France et de la réinsertion. Malika Mansouri, c'est très difficile de reconnaître qu'on a été endoctriné, qu'on s'est fait avoir, parce que ça renvoie à un sentiment de faiblesse, mais pas forcément d'ailleurs à juste titre.
Certainement, mais le « je voulais partir » est très important, en fait. C'est-à-dire que on peut entendre différentes choses dans les témoignages, mais ce qui s'entend le moins est parfois le plus important. Pourquoi voulait-il partir ? pourquoi accepter de partir à partir d'un discours qu'on lui offrirait sur les questions de religion et de défense d'une humanité qui serait attaquée? Voilà les vraies questions. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça bascule et que on peut comme ça se saisir de ses mains? A priori, ces jeunes ne sont pas passifs, hein. Ils sont aussi acteurs pour eux-mêmes, individuellement. Alors évidemment, si l'on considère au cas par cas chaque singularité qui va se laisser attraper, quand on fait ce travail de terrain, hein, des gens qui travaillent à les sortir des systèmes sectaires, on ne peut pas envisager peut-être les choses de manière plus collective. Mais très honnêtement, toute cette jeunesse qui participe, on va parler de la France, c'est un phénomène mondial, mais pour ce qui nous concerne ici, il y a un enjeu fondamental qui est français, hein, collectivement, et qui est quasi existentiel de la façon dont on intègre ou on n'intègre pas les musulmans de France, les Français musulmans, hein, c'est ça, cette difficulté à les intégrer. Parce que lorsqu'une société, finalement, pousse à la violence, et je le dis, lorsqu'une société pousse à la violence ses propres dépossédés, voilà ce que j'essayais de dire. Alors on fabrique de la déviance.
C'est ça. Voilà. D'une société dont on pourrait dire qu'elle est violente vis-à-vis de ses jeunes, c'est ça?
Violence par inintérêt, ou alors par ostracisme continu depuis des décennies, par questionnement sur la place de ces Français musulmans au sein de la société. Comment je peux en être moi d'ici si on ne me permet pas ça? Alors bien sûr je veux partir, et quel autre ailleurs? Je vais vous donner un exemple. J'avais rencontré une jeune fille qui s'était mise à se voiler, et puis je l'avais rencontrée pour un entretien de recherche, et elle me racontait comme ça, elle me disait « mais je comprends pas, les gens me croisent dans le métro et ils me disent « mais enfin, retourne dans ton pays ». Et elle me dit « mais enfin, où veulent-ils que j'aille ?» La musulmanie, ça n'existe pas. Et nous étions en 2007, nous n'avions pas encore ce genre d'embrigadement. Aujourd'hui, une sorte de musulmanie est en train d'exister. Et
Souleymane Valzane, j'aimerais que vous nous expliquiez concrètement ce que vous faites au centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam pour, je dirais, sortir ces jeunes de là, désendoctriner, je ne sais pas si c'est le bon terme, on ne sait pas très bien quel terme utiliser, mais en tout cas, faire que ces jeunes sortent de cette radicalité.
Alors, le premier point sur lequel on s'appuie, c'est bien entendu la famille qui est autour du jeune, qui va nous permettre, avec leur soutien, de pouvoir réaliser certaines opérations. La première qu'on fait sur tout type de situation, quand un enfant est repéré effectivement dans une déviance, dans une dérive sectaire de type terrorisme djihadiste, on essaie de retravailler avec les parents tous les souvenirs et tous les moments qui ont été partagés par l'individu, qui l'ont touché, et qui vont permettre à l'individu de rejaillir derrière le groupe qui pense à sa place. C'est-à-dire que sur ces moments de vie et ces moments d'émotion, le groupe n'a pas d'emprise, parce que c'est l'histoire individuelle qui joue. Et donc, on va travailler avec les parents à essayer de ressortir tous ces moments, qu'ils soient heureux, marquants, même malheureux, pour essayer de faire ressortir l'individu chez le jeune et qu'il repense par lui-même. Ensuite, sur des situations beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus marquées et bien identifiées, on va faire effectivement ce qu'on appelle des séances de désembrigadement, désendoctrinement. Les termes sont pas toujours heureux, mais ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va amener un certain nombre de personnes. Alors, je rentre pas trop dans les détails parce que, bien entendu, ces gens qui embrigadent nos jeunes nous écoutent aussi, et le but c'est pas de leur donner des pistes pour reproduire un contre-discours par rapport à ce qu'on propose, mais en gros ce qu'on opère, c'est une dissociation cognitive, c'est-à-dire que le jeune va être confronté à ce qu'il aspire et à ce qu'on lui vend comme projet en Syrie ou en Irak, et on va lui montrer la réalité de ce qui s'y produit véritablement. Et on s'appuie sur des témoignages de personnes qui ont vécu ces choses-là, qui ont des proches qui ont été là-bas. Et on va permettre aux jeunes de comprendre tous les mécanismes dans lesquels il est rentré et qui l'ont fait voir une forme de vérité qu'il s'est construite mentalement, et lui montrer que tout ça n'a été que de la construction mentale et de la manipulation.
Est-ce que vous faites aider par des psys?
Pardon ?
Est-ce que vous vous faites aider par des psys ?
Bien sûr.
Alors voilà, c'est-à-dire que nous, une fois qu'on réussit, je dirais, à renverser le jeune, qu'on réussit à le faire reprendre sa partie individuelle et le sortir de, de l'emprise du groupe, on a cassé le modèle du jeune et le jeune il se retrouve un petit peu les pieds dans le vide. Et là, il y a tout un travail à faire avec les psychologues, et c'est pas nous qui l'effectuons, ce travail-là, de reconstruction, parce qu'on a un petit peu cassé ses représentations, et le but, c'est qu'ils se reconstruisent. Et là, il y a effectivement, et c'est indispensable, l'intervention d'un psy sur ces questions-là.
Malika Mansouri, justement, qu'est-ce qu'un psy peut apporter ? C'est quoi ? Une écoute dans ces cas-là ?
Mais je crois que ça a été très bien expliqué hein, par l'intervenant précédent. C'est vrai que conditionner quelqu'un, c'est déconstruire déjà ce qu'il était au départ pour injecter de nouvelles données.
Mais ce que je veux comprendre, c'est ça se passe comment avec un psy dans ces cas-là ? De quoi vous parlez avec le jeune ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est ça que les gens ont envie de comprendre. Il ne s'agit pas de dire que ces jeunes sont des malades psychiatriques, ce n'est pas la question, mais juste ils ne vont pas bien. Qu'est-ce qu'un psy peut apporter ?
Non, ce ne sont pas tous des malades psychiatriques.
C'est important
absolument
de le dire.
Pas.
On est bien d'accord.
Absolument pas. Oui, oui. Il faut d'abord commencer par les écouter et accueillir ce qui se présente, mais accueillir véritablement. Hein, pas avec simplement nos représentations à nous de la chose, justement. Ce que j'essaye de dire un peu depuis tout à l'heure, même si j'ai l'air d'être à côté.
Vous êtes tout à fait dans le sujet. Mais ce qu'on a toujours envie de comprendre et que le grand public a du mal à comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe avec le psy ? Vous faites quoi ?
Écoutez, on entre en relation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, on accueille la parole de l'autre et que l'on accueille son champ de représentation.
Une écoute bienveillante.
Bienveillante nécessairement, mais la bienveillance, ça n'est pas que de la gentillesse, hein, pour autant. Hein, on peut y réagir. Ce qui est intéressant pour ce type de prise en charge, me semble-t-il, c'est notamment la proposition de Marie-Rose Moreau, là, en l'occurrence, qui est du côté du transculturel, c'est qu'il y ait, parce que c'est complexe ces mécanismes, quelque chose de plus collectif, de plus complémentaire, avec d'autres, justement,
pas partenaires. Pas simplement face à face avec le psy.
Notamment lorsqu'il s'agit d'adolescents, en l'occurrence.
Serge Bliscot, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour aider ces familles, ces jeunes?
Écoutez, je voulais revenir un tout petit peu à la conversation, mais ça nous amènera à l'action du gouvernement. Donc, moi, je m'inscris un peu en désaccord avec Madame Mansouri, veuillez m'excuser, mais on peut pas présenter ces jeunes, quelle que soit leur origine, encore une fois, et on sait qu'elle est très diverse. On a des jeunes issus de milieux dits arabo-musulmans classiques, une pratique religieuse plus ou moins grande, parfois assez détachée, parfois plus importante, et puis d'autres issus de familles catholiques, athées, juives, etc. Donc il y a quand même un vrai problème, et on peut pas les présenter comme le résultat d'une oppression musulmane. D'ailleurs, moi, je pense que c'est pas bien, sans être un spécialiste de l'islam, de présenter ces jeunes comme étant des musulmans opprimés, de parler d'une musulmanie auquel on les renverrait, qui n'existe pas, et là, je suis d'accord avec vous, parce que là, c'est une construction victimaire qui va les enfermer, justement dans un état d'infériorité par rapport à la société française.
Serge Bliscot, vous ne pensez pas que ces jeunes sont aussi des victimes d'une forme de violence de la société, où ils sont en échec scolaire depuis des années,
non,
ils sont dans des quartiers...
On a de tout.
Mais pour certains, c'est quand même de l'échec scolaire, des vies dans des quartiers,
oui,
quand même.
Si c'était que ça, je dirais, on aurait évidemment à injecter beaucoup de moyens, à se poser beaucoup de questions, à avoir énormément, j'allais dire, d'auto-culpabilisation, en disant on a laissé faire les choses. Je crois que ça existe dans un certain nombre de cas, mais dans beaucoup d'autres cas, je ne sais pas si c'est 50%, 50%.
Et qu'est-ce que le gouvernement a mis en place?
C'est tout à fait l'inverse. Alors, je vois encore des parents qui sont souvent des parents de classe moyenne, mais qui se sont quand même, on va le dire un peu populairement, saignés aux quatre veines pour faire étudier un jeune. Moi, j'ai encore les parents d'une jeune fille qui était en institut d'infirmière. Pour elle, pour eux, c'était vraiment la consécration sociale, et elle arrête. Elle dit qu'elle veut partir se marier, elle veut pas partir dans un quartier salafiste en Égypte, par exemple, pour se marier à 18 ans. Pour ses parents, c'est un effondrement.
Tout à fait.
Un avenir. Alors,
on comprend bien qu'il y a des profils très différents. Serge Bliscot, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour aider ces familles?
Vous avez
jeunes.
D'abord le fameux numéro vert, que je vais rappeler, le 0800 005 696, qui a un numéro de détection et d'information. Et nous, nous avons, la Miviludes, participé à la formation de ceux qui écoutent. De ceux qui écoutent et qui vont, parfois pendant une heure, dire aux parents, parce que c'est souvent les parents qui appellent, c'est rarement
un jeune
qui dit « je me sens mal parti », ça n'arrive pas. Hein. Et donc, effectivement, et ce que nous disait notre interlocuteur, garder le contact, travailler avec ce jeune, où en est-il ? On évalue un peu le degré dit de radicalisation. Et puis ensuite, écoutez, en fonction de... Alors, il y a le jeune qui, je veux dire, bascule vraiment dans le pré-terrorisme. Alors, cela, il faut le signaler à la police qui va le surveiller, ou etc. Mais la plupart du temps, c'est un suivi de cette famille, ce que j'appellerais une guidance dans le vocabulaire des psychologues, pour essayer de faire en sorte que la famille reste autour et que ce jeune, on puisse le discuter avec lui, garder un contact, vérifier aussi quels sont ses contacts au sens, j'allais dire, un tout petit peu plus pernicieux du terme, qui lui écrit par SMS, quel entourage, nouvel entourage a pris de l'influence sur lui. Il y a véritablement une lutte qui est souvent une lutte difficile contre l'emprise que peuvent jouer les uns les autres.
Et puis,
vous avez vu que depuis quelques jours, le gouvernement a lancé un plan où il y a une vidéo,
avec un site Stop Djihadiste sur lequel vous pouvez aller.
Et un certain nombre de... Un site internet sur lequel on essaie de prévenir sur cette tentation funeste. Parce que je voudrais quand même qu'on dise, Madame Hédon, il y a 73 jeunes qui sont morts aujourd'hui déjà là-bas. Ce sont des jeunes Français qui sont morts dans une aventure qui n'était pas pour eux. Et voilà, donc après,
c'était important de le préciser. Anna Hérel, j'ai vraiment vous redonner la parole. Hein. Vous avez publié Dans la peau d'une djihadiste, c'est une enquête que vous avez menée au cœur des filières de recrutement de l'État islamique. Hein. Je rappelle que vous êtes entré en contact sur Facebook avec Bilal, qui en gros vous propose de l'épouser. Et alors, vous êtes un peu, si je puis m'exprimer ainsi, entre guillemets, un peu gonflé, c'est parce que vous avez vraiment le projet d'aller jusqu'à Istanbul.
Oui, j'ai le projet d'aller jusqu'à Istanbul, mais Istanbul, à la limite, c'est encore loin de la frontière turco-syrienne. Pas une seconde, j'ai pensé le rencontrer lui, mais je voulais vraiment me mettre dans la peau d'un apprenti djihadiste et de voir ce que ça fait de faire ce voyage, de voir qu'on a envie de reculer, ce que ça fait une fois qu'on arrive dans ces fameuses frontières où les pauvres parents sont obligés de s'y rendre pour avoir des informations. Je voulais ressentir tout ça, mais en aucun cas, je voulais rencontrer mon interlocuteur.
De fait, vous êtes arrêté à Amsterdam, hein, si je ne me trompe, c'est ça ?
Exactement.
Et vous êtes rentré. Aujourd'hui, il y a une fatwa contre vous.
Ouais. Il y en a plusieurs. Après, malheureusement, quand ça vient de Daesh, les fatwas, c'est vraiment, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il y a des fatwas pour un oui ou pour un non.
Parce que le Bilal en question était impliqué d'abord dans le banditisme. C'est important de le dire. Mais surtout, en fait, c'est un gros bonnet de l'État islamique.
C'est un assez gros bonnet, ouais. Il se présentait. Donc après, il faut prendre ça avec des pincettes, mais ça a été quand même bien confirmé par son entourage et par d'autres sources, présenté comme les Français le plus proche de leur leader, Abou Bakr al-Baghdadi. Donc il avait quand même contrairement aux jeunes, il avait énormément d'autonomie il était très très indépendant. Donc effectivement, il pouvait du matin au soir au téléphone à endoctriner, à essayer de rameuter des gens chez lui, en Syrie.
Anna Hérel, ce qui frappe aussi dans ce que vous racontez, c'est que on sait qu'il y a quelques jeunes garçons, quelques hommes qui sont rentrés du djihad en Syrie, aucune jeune fille, aucune.
Non, il y a aucune jeune fille. Il y a quelques garçons qui arrivent à rentrer, bon, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais voilà, ça sera encore autre chose. En revanche, les garçons peuvent arriver à s'enfuir ou à partir. Les filles, si par exemple elles perdent leur époux, on les remarie derrière avec un autre djihadiste. Donc de toutes les manières, c'est un aller sans retour. Elles ne peuvent pas revenir du tout.
Et est-ce qu'on a quelques témoignages de ces jeunes filles qui se rendent compte de leur erreur, ou on n'arrive même pas, est-ce qu'elles n'arrivent même pas à exprimer ça parce que certains parents sont encore en lien avec leurs filles en Syrie.
Si, alors c'est ce que je disais, en fait, comme elles sont assez jeunes, elles ont des gens derrière eux pour justement, quand elles parlent à leurs proches, notamment à leur famille, pour pas qu'elles fassent peur de leur mal-être. Et quand elles arrivent à être seules, elles le disent. Et moi, j'ai assisté à des conversations où c'était une fille de 14 ans qui habitait près d'Avignon. Et j'étais avec la famille quand elle a appelé seule, et elle était en pleurs, en train de dire que c'était un enfer, qu'elle comprenait pas pourquoi elle était venue là et que c'était pas du tout ce qu'on lui avait promis. Et là, vous voyez toute une famille, du grand-père au petit frère, qui se met à pleurer, c'est...
Oui.
Souleymane Valzane, vous êtes chargé de mission radicalité au centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Que se passe-t-il pour les djihadistes qui veulent retourner dans leur pays, qui se rendent compte qu'ils ont fait une erreur et qui veulent rentrer en France? En fait, quand ils arrivent, ils sont inculpés d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Mais qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce qu'on essaie de les prendre en charge?
Alors, en gros, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'aucune fille, malheureusement, n'est rentrée vivante en France de ces zones de conflit, ce qui veut dire qu'elles sont séquestrées et donc la liberté qu'elles expriment, on comprend bien qu'elle est complètement captée. Et puis pour les garçons, ceux qui ont réussi à revenir, ils y sont arrivés bon gré mal gré, c'est-à-dire qu'ils ont quand même dû échapper à la mort à un moment. Se retirer du groupe en s'enfuyant. Et donc on a généralement des profils de gens qui ont compris que c'était pas le projet qui leur avait été vendu,
mais on leur propose une prise en charge psy, justement, entre guillemets.
Alors pour l'instant, ce qui se passe donc sur les garçons,
parce qu'on les envoie en prison, non, en gros?
Alors en gros, on les attend à la frontière et le juge antiterroriste va faire effectivement un débriefing pour voir effectivement quel a été leur degré d'application au niveau du terrain, parce qu'il n'est pas question effectivement pour les services français de mettre sur le même pied d'égalité des situations où le jeune est resté 3 jours, n'a pas combattu, a tout de suite compris qu'il n'était pas dans...
On arrive vraiment à la fin de cette émission, mais j'insistais, il n'y a pas de prise en charge psy prévue à ce moment-là.
Alors, là, il y a toute une réflexion.
Il nous reste 20 secondes.
Oui. L'administration pénitentiaire est en train d'y réfléchir et je crois que les choses sont lancées dans cet esprit-là.
Serge Blisco, un mot, vous voulez rajouter?
Oui, les choses sont lancées. Il reste à trouver des professionnels qui s'impliquent là-dedans. Et c'est un métier très difficile.
Merci vraiment beaucoup à tous d'être intervenus. Je voudrais juste rappeler le livre d'Anna Herel, Dans la peau d'une djihadiste, enquête au cœur des filières de recrutement de l'État islamique. Merci à tous et à demain.